Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains en direct depuis le marché de Rungis pour cette édition spéciale qui va se prolonger jusqu'à 7h ce matin. On célèbre les 50 ans d'existence de ce marché. Et dans quelques minutes, justement, Fabrice Dalméda, monsieur histoire d'Europe 1, va revenir sur l'histoire du marché de Rungis. Et puis nous accueillerons Stéphane Layani, le monsieur Rungis, le patron de ce lieu incroyable. Et il sera en direct sur Europe 1 pour cette édition spéciale depuis Rungis.
Et ça, ce sera à 6h20. Parfait. Cela vous laisse 20 minutes pour faire notre marché hein, avec Anissa. On compte sur vous.
Merci d'écouter Europe 1. Nous sommes le 1er mars. Il est 6h. Très bon réveil. 5h, 7h sur Europe 1. Eva Rock et Aurélien Fleureau.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce vendredi 1er mars, le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Aurélien, bonjour à tous. 40% des pensions alimentaires ne sont pas versées. Emmanuel Macron veut venir en aide aux femmes concernées. Fini les 3 pots de pâte à tartiner pour le prix d'un. Les promotions sont désormais strictement encadrées. Et puis, acheter un billet de train au bureau de tabac, c'est peut-être pour bientôt. On entendra le patron de la SNCF.
Europe 1.
C'est l'image de la soirée, Emmanuel Macron face à quelques centaines de femmes dans un gymnase pour un nouvel épisode du Grand Débat National. Le président a notamment été interrogé sur la question des pensions alimentaires. On vous en parlait cette semaine, près de 400 000 femmes ne perçoivent pas la pension à laquelle elles ont droit. Emmanuel Macron veut y remédier.
J'ai été frappé dans de nombreux débats du nombre de femmes qui m'interpellaient parce que leur vie était empêchée. Parce que par exemple, la pension alimentaire n'était pas payée. On doit avoir une réponse. Et je le dis très clairement, je veux ici rassurer en particulier toutes les associations et les femmes qui sont exprimées. On n'ira pas vers la dépénalisation du non-paiement des pensions. Je veux même qu'on aille plus loin. Je veux qu'on crée les moyens d'apporter une réponse concrète, rapide. C'est-à-dire que pour la plupart du temps, ceux qui sont seuls et qui la pension n'est pas payée, qu'on ait un système où on puisse recouvrer beaucoup plus rapidement cet argent auprès des mauvais payeurs. Et qu'on puisse avoir même des mécanismes de garantie pour les accompagner.
Emmanuel Macron au micro de Stéphane Place pour Europe 1.
Vous l'avez compris, depuis le début de cette matinale, on parle de notre alimentation. Eva Rock est notre envoyée spéciale au marché de Rungis.
Et si vous allez faire vos courses aujourd'hui, vous serez peut-être surpris. Les promotions sur les produits alimentaires sont désormais bien plus encadrées. Anne-Laure Jumet nous dit tout.
Un produit offert pour un produit acheté, normalement vous ne devez plus voir ces promotions dans les rayons. Et à compter d'aujourd'hui, les distributeurs sont désormais soumis à des limites en volume, toujours pour les produits alimentaires. Les ristournes ne pourront ainsi porter que sur un maximum de 25% des quantités vendues pendant l'année. Voilà la règle, mais les distributeurs ont encore des moyens de contourner la loi, met en garde Richard Panquio, directeur général de l'ILEC, qui représente des groupes de grande consommation.
Vous pouvez avoir des offres promotionnelles typiquement qui annoncent un prix choc, un prix spécial, qui peut en fait avoir effectivement un prix considérablement baissé par rapport au prix promotionnel habituel. Mais dans la mesure où ce prix, cette remise, ne serait pas exprimée en pourcentage ou en valeur, l'ordonnance ne s'applique pas à ces promotions-là.
Mais les services de la concurrence et de la répression des fraudes veillent. Environ 500 contrôles par mois sont prévus. D'ailleurs, des irrégularités ont déjà été constatées. Elles peuvent être assorties de sanctions financières, des amendes qui peuvent aller jusqu'à 75 000 euros par magasin et 350 000 euros par enseigne.
Anne-Laure Jumet, qu'on retrouvera en direct dans l'heure qui vient, en compagnie d'Eva Rock.
Europe 1, il est 6h03.
Les Algériens ne digèrent pas la nouvelle candidature de leur président.
Abdelaziz Bouteflika est en place depuis 20 ans, très affaibli depuis un AVC en 2013. Il est d'ailleurs en ce moment même soigné dans un hôpital de Genève, en Suisse. De l'autre côté de la Méditerranée, la contestation monte. On attend des manifs aujourd'hui. Le premier ministre algérien, Ahmed Ouyaïa, assure que son gouvernement respectera le droit de manifester.
Nous avons dit aux députés et nous disons à travers ces élus à nos citoyens que les marches et les regroupements sont un droit constitutionnel. Jusqu'à présent, les choses se sont déroulées de manière pacifique. Mais j'avertis contre les manœuvres ou les tentatives de certains partis ou de certaines personnes qui cherchent à perturber ce climat pacifique et à diriger le pays vers des horizons plus sombres.
Le gouvernement continuera à préparer les élections pour le 18 avril.
Ahmed Ouyaïa au micro européen de Nour Chahin. En France, ce sont eux qui fabriquent le papier sécurisé de nos cartes grises. Les salariés d'Arjo Wiggins luttent pour sauver leurs différents sites dans la Sarthe et en Seine-et-Marne. Date limite des dossiers de reprise aujourd'hui. Le tribunal de commerce de Nanterre a reçu plusieurs candidatures. Théo Manval.
Oui, au moins deux offres devraient arriver ce matin sur le bureau du tribunal de commerce pour les deux usines sartoises d'Arjo Wiggins. Un industriel local, CGMP, et surtout un groupe scandinave, THLF, qui souhaiterait garder près des deux tiers des 900 salariés. Intéressant, bien sûr, mais attention, prévient Laurent Leroy, délégué du personnel.
Visiblement, il s'est rapproché de l'État. Ce que nous, on demande, c'est qu'il faut vraiment apporter des garanties financières pour que le dossier soit pérenne, qu'il ne soit pas, au bout de 6 mois, complètement caduque.
Car c'est bien ce qui est arrivé l'an passé à un autre site du groupe, l'usine de Jouy-sur-Morin, en Seine-et-Marne. On en a beaucoup parlé il y a un mois, souvenez-vous, quand les salariés ont brûlé des stocks de papier pour carte grise. Après avoir été racheté il y a un an, cette usine est à nouveau en liquidation et cette fois-ci sans plan de reprise. Patrice Schaffs, délégué CGT, demande à l'État de prendre ses responsabilités.
Une nationalisation temporaire, ça permettrait de préserver le site dans un premier temps et puis d'avoir le temps ensuite de trouver un repreneur qui soit correct, quoi.
Mais Bercy a déjà répondu non. Pour les deux usines de la Sarthe, le tribunal de commerce examinera les dossiers de reprise mercredi prochain.
Les précisions de Théo Manval. C'était il y a 2 mois, un dimanche matin, une députée MoDem de Vendée découvrait un mur de parpaing monté devant chez elle pendant la nuit. Et au milieu des messages de soutien qu'elle avait reçus par la suite, un autre, beaucoup moins bienveillant, lui avait été adressé. Des menaces pour lesquelles un homme d'une 40aine d'années sera jugé aujourd'hui à Colmar. Écoutez cette députée, Patricia Galerno.
J'ai trouvé une espèce de simili-menace de mort sur ma page qui disait « Aujourd'hui, c'est des briques. Demain, si ça continue, ça pourrait être du plastique, comme en Corse. » Et ce n'est aucunement une menace, juste une petite mise au point, m'écrivait-il. J'ai trouvé ça quand même beaucoup plus difficile à avaler que ce mur de simple mur de parpaing qu'on a dégagé en une heure avec mon mari et puis les gendarmes. Bon, ça se relaye les réseaux sociaux, ça se partage, ça se like, etc. Et là, je dis non, on peut pas continuer à laisser diffuser des choses pareilles, quoi. On m'a informé qu'il était déjà connu des services de police et pour des petits faits comme des faits graves, par exemple aussi graves que dire sortons les armes, samedi on rase Paris. Des fusils, des cocktails Molotov, enfin vraiment, ça fait peur, quoi. C'est pas quelqu'un qui a bu 3 bières de trop et qui s'est laissé entraîner. C'est quelqu'un qui est coutumier du fait, donc là, je pense qu'il faut sévir. Et pour ce monsieur, et pour les gens qu'il terrorise sur les réseaux sociaux.
Patricia Galerno avec Pierre de Cossette.
Et puis, si vous habitez loin d'une grande gare SNCF, vous achèterez peut-être bientôt vos billets au bureau de tabac.
C'est la proposition faite par la Confédération des buralistes et le patron de l'entreprise ferroviaire, Guillaume Pépi, s'y montre plutôt favorable.
On ne peut pas maintenir des guichets absolument partout. Quand un guichet ne fait que 4 ou 5 billets à l'heure, on voit bien qu'à ce moment-là, c'est le contribuable qui paye. Donc, il faut trouver des solutions bon marché pour qu'on puisse acheter des billets partout. On l'a fait déjà avec les mairies. Et on l'a fait avec nos collègues du service public de la Poste. On le fait de plus en plus avec des maisons de service public. Mais il y a des idées nouvelles aussi. Et par exemple, les buralistes qui voient d'autres ventes plutôt s'éroder viennent nous voir en nous disant est-ce qu'il ne serait pas possible que dans les bureaux de tabac, on puisse acheter des billets de TER. Je trouve que c'est une bonne idée, on va en discuter. Mais notre objectif, c'est de pouvoir être distribué partout.
Et si jamais on n'a pas pu acheter de billets, quand on monte dans le train, on paye quel tarif ?
Il faut que lorsqu'on n'a pas pu acheter le billet parce qu'il n'y avait pas de système, on paye au tarif normal qui est le tarif de la gare. Mais attention, ça ne peut pas être la porte ouverte à la fraude. Parce que beaucoup de gens prétendent ne pas pouvoir acheter leurs billets. Et en réalité, ce qu'ils souhaitent, c'est frauder le service public. La fraude dans les TER, c'est 100 millions d'euros par an. 100 millions d'euros par an, ça représente 15 trains neufs. Donc il faut être à la fois rigoureux et en même temps, s'il n'y a pas eu de solution pratique pour acheter son billet, il faut accepter de trouver une bonne solution.
Guillaume Pépi, au micro Europe 1 d'Olivier Samin.
Merci, c'était le journal de François Geffrier.
Europe 1, il est 6h08, Aurélien Fleureau.
Avenir, c'est historique. Aujourd'hui, Fabrice Dalméda revient sur le déménagement des halles du centre de Paris au site de Rungis, devenu le plus grand marché de produits frais au monde.
Il est 6h09, Aurélien Fleureau.
Et c'est l'heure de la tendance météo du jour. Avec vous, Laurent Cabrol.
Et on change de type de temps et nos amis à Rungis le savent. Il va falloir qu'ils modifient leur menu puisqu'on va maintenant aller vers une période de temps humide et beaucoup plus frais. Alors que jusqu'à présent, c'était quasiment le printemps ou l'été. Alors pour aujourd'hui, eh bien, de la pluie, il y en aura sous forme d'averse. Je vais commencer, tenez, par les bonnes nouvelles. Sur le littoral méditerranéen, il sera assez beau avec Mistral et Tramontane. 60, c'est pas terrible comme vitesse, ça va, c'est supportable. Basse Normandie, Centre, Auvergne, Val-de-Loire et Limousin, ce sera de plus en plus ensoleillé au fil des heures, donc pas d'inquiétude, c'est sec. En Bretagne, Loire-Atlantique, Poitou-Charentes et sur Midi-Pyrénées, comme sur l'Aquitaine et le Béarn, les éclaircies seront là dès ce matin. Et puis des régions où il va pleuvoir un tout petit peu, ce sont des averses. Alsace, Franche-Comté, Dijonais, le Rhône, les Alpes du Nord, et puis la Haute-Normandie, le Nord, la Picardie, l'Île-de-France, la région Champagne-Ardenne, la Lorraine et la Bourgogne. Des averses soit le matin, soit l'après-midi, mais enfin, ça va un petit peu mouiller dans ces contrées. Tout à l'heure, je vous donne des températures maximales, c'était du 10 à 20 degrés. Ouais. Et je vous donne la fourchette pour les températures minimales, entre 7 et 12 degrés.
Merci Laurent. Alors Anissa, je suis sûr que vous avez la réponse à ma question, puisque vous êtes la meilleure. Les auditeurs sont-ils branchés sur Twitter?
Alors c'est la journée du compliment. J'explique juste aux auditeurs pourquoi vous me dites que je suis la meilleure toutes les 3 minutes. C'est la journée mondiale du compliment aujourd'hui. Et on vous demande s'il y a des compliments dans la vie qui vous ont marqué. Chrétia nous dit « Bonjour à toute l'équipe, j'avais 20 ans. Un matin, j'ai dû me lever en catastrophe parce que mon berger allemand s'était échappé dans la rue. Il y avait des enfants qui criaient. Je suis sortie, une petite fille regardé et m'a dit « Ouah, vous êtes belle madame !» Et ben elle s'en rappelle encore 20 ans après. Et c'était sincère, j'en suis sûre. Chrétia, venez nous dire si vous aussi il y a des compliments ou des petites attentions dans la vie qui vous ont marqué.
Mais voilà, vous êtes la meilleure, merci.
Mais oui, n'en faites pas trop.
Europe 1,
5h-7h, émission spéciale aujourd'hui avec vous Aurélien Fleurot.
L'actualité, c'est aussi évidemment les résultats sportifs de ces dernières heures, le journal des sports avec vous Simon Rubin. On commence par du football. Un choc décevant hier entre la France et l'Allemagne.
Décevant pour les Françaises en tout cas, foot féminin et cette défaite pour les Bleus de Corinne Diacre. Après 8 succès consécutifs, les Françaises tombent contre des Allemandes plus solides, plus efficaces également. Alors pas de panique dans les rangs français, assure pourtant l'une des cadres de l'équipe, Gaëtane Tinet.
Je pense que c'est un mal pour un bien, oui, bien sûr. Parce que pour avoir vécu des saisons où on gagnait tous les matchs de préparation et quand on arrivait aux compétitions, c'était très compliqué, je pense que c'est une bonne chose. Après, on aurait préféré gagner, hein, mais il faut prendre aussi... Il n'y a rien qui arrive au hasard. Moi, je dis souvent ça, mais rien n'arrive au hasard. Et cette défaite, ça doit être aussi quelque chose pour nous construire.
Et des leçons à retenir?
Oui, des leçons à retenir sur plusieurs points, mais ça on va le faire tranquillement tous ensemble à la vidéo et voir ce qui n'a pas été, pourquoi on n'est pas rentré dans le match tout de suite, pourquoi on a manqué un peu de qualité technique. Et puis malgré tout, il faut quand même mettre une note positive sur la deuxième mi-temps où on a su réagir et je crois que les Allemands ont eu zéro occasion et nous on a eu plusieurs situations dangereuses.
Propos recueillis par Stéphane Beignet.
De l'athlétisme maintenant avec le début des championnats d'Europe en salle, c'est aujourd'hui.
Oui, l'équipe de France est à Glasgow, sans Renaud Lavillenie, le perchiste blessé, mais avec Pascal Martineau-Lagarde, l'un des favoris sur les haies. Alors que doit-on attendre de ces championnats? Comment les rendre notamment bénéfiques pour la délégation française? La réponse de notre consultant Jean-Claude Perrin.
C'est une épreuve d'expérience où les athlètes peuvent tirer un enseignement pour préparer les grands championnats, notamment les championnats du monde qui auront lieu à Doha en septembre 2019. Mais surtout, je le vois sur le côté psychologique, parce que en athlétisme, on n'a pas la chance d'avoir de nombreuses réunions, comme c'est le cas en tennis. Donc là, un championnat d'Europe est quelque chose de très très précieux pour les athlètes et les entraîneurs.
Jean-Claude Perrin, notre consultant athlétisme.
Allez, un mot de tennis.
Gaël Monfils qualifié pour les demi-finales à Dubaï. Il est venu à bout de lituanien Berankis en 3 manches. Aujourd'hui, il affronte un gros morceau, le grec Tsitsipas. Borna Coric, le croate, sera opposé à Roger Federer qui joueront donc l'autre demi-finale.
Allez, on termine maintenant avec l'histoire du jour.
Mais c'est la grande révolution du foot allemand. Alors l'Allemagne a manqué le dernier mondial 2018, l'a complètement raté. Depuis, tout le monde réfléchit du côté de la fédération allemande, que faire pour progresser? Et la question s'est très vite portée sur quel type de coach faut-il aux jeunes? Est-ce qu'il faut un moderne avec son iPad au bord du terrain? Est-ce qu'il faut un vieux de la vieille qui connaît les rouages des clubs? Ou est-ce qu'il faut un pédagogue capable de transmettre? Ben ça y est, ils ont trouvé la réponse. Faut les trois.
Allez.
Les équipes de jeunes seront donc désormais encadrées en Allemagne par 3 coachs, un entraîneur en chef, 2 assistants, avec toujours les 3 profils, l'expérimenté, l'innovateur et le spécialiste. Autre idée, promouvoir un foot de rue, un foot plus naturel, instinctif, dans des city-stades au cœur des villes. Voilà des idées intéressantes pour le sport français, puis même peut-être au-delà pour l'éducation.
Exactement. Ben merci, c'était le journal des sports de Simon Rubin. On retrouve tout de suite Eva Roque en direct de Rungis à l'occasion des 50 ans du marché d'intérêt national. C'est à vous Eva.
Exactement Aurélien, il est 6h14, on est toujours dans la grande halle des fruits et légumes. On vient de voir passer un groupe de touristes parce que oui, le marché d'intérêt national se visite. Il y avait une trentaine de personnes là qui étaient devant nous. Ils ont fait le salon de l'agriculture et puis dans leur tour, eh bien, a été prévue cette visite du marché de Rungis. On leur a dit quelques mots et ils étaient complètement aussi épatés que nous en fait de voir toute cette jolie marchandise devant Rungis dont nous fêtons, comme vous le disiez, le 50e anniversaire. Mais comment est né ce site? Eh bien, c'est notre historien Fabrice Dalméda qui a la réponse à cette question.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
c'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
Fabrice, on célèbre donc le déménagement des Halles de Paris à Rungis. C'était entre le 27 février et le 1er mars 1969. Ça a été un changement historique.
Bah oui, c'est la grande modernisation du ventre de Paris. Jusque-là, les Halles étaient dans la capitale. Mais les vieux pavillons, imaginés par Victor Baltard, l'architecte en 1854, maintenaient les commerçants à l'étroit. Et la position au centre de Paris limitait l'expansion du trafic. C'est pourquoi les pouvoirs publics décident du déménagement vers Rungis en 1962. La ville disposait des terrains constructibles et offrait l'avantage d'être proche de l'aéroport d'Orly, tout juste modernisé, et des grands nœuds routiers. Cela formerait un pôle d'attraction au sud de Paris. C'était la grande époque de l'aménagement du territoire, rappelez-vous des villes nouvelles. Les travaux commencent en 1964 et en 1969, on accède enfin dans ce grand temple de la marchandise. Le marché, c'est une ville, 232 hectares de surface, dont 73 construits. Mais à l'époque, un groupe fait de la résistance. La boucherie et les forts des Halles. C'est seulement en 1973 qu'ils partiront pour leur nouveau pavillon à Rungis. Alors, les Parisiens réalisent vraiment le changement. Tiens, on va écouter un d'entre eux, en 1973, un nostalgique des chevaux qui, encore dans les années 60, tirer les marchandises, c'est le monde des petits matins.
Vous aviez des chariots, par exemple, qui étaient chargés dans la périphérie, et les chevaux connaissaient le trajet eux-mêmes. Les gens qui les conduisaient, ben, ils dormaient, vous savez.
Eh oui, cette France qui se lève tôt avait, comme nous, les réveils difficiles. Les Parisiens vont donc mettre longtemps à admettre le départ pour Rungis. Certains pleurent les pavillons Baltard, détruits entre 1971 et 1974, qui laissent deux énormes trous. Il faudra attendre les décisions du président Pompidou et de son successeur, Valéry Giscard d'Estaing, pour que le centre de la capitale se relève avec le centre Beaubourg et le centre commercial des Halles. Depuis, Rungis est devenu indispensable. Le marché façonne l'évolution de nos goûts. Des légumes anciens y sont revenus, des fleurs odorantes aussi. Le bio y a même sa place maintenant, à côté des fruits exotiques. En somme, ce lieu d'échange est redevenu un lieu de vie à échelle humaine.
Exactement. Merci Fabrice, ça méritait bien ces 50 ans d'existence. Une édition spéciale sur Europe 1 que l'on va poursuivre. Fabrice, on vous retrouve lundi, peu avant 6h15.
Europe 1.
Il est 6h18, Eva Rock, Aurélien Fleureau.
Et Debout les copains se poursuit, édition spéciale en direct de Rungis, où nous retrouvons dans quelques instants Eva, Anne-Laure Jumet également, et leur invité, Stéphane Layani, le PDG du marché d'intérêt national.
À 6h18 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité de ce 1er mars avec vous Aurélien Fleureau.
C'était prévu, mais pour les fumeurs ça fait mal quand même. Les paquets de cigarettes augmentent de 50 à 60 centimes aujourd'hui. En 2020, ce sera carrément 10 euros le paquet. Les hommes et les femmes sont-ils traités à égalité dans mon entreprise? Eh bien, c'est aujourd'hui que les groupes de plus de 1000 salariés doivent publier une note sur 100 calculée sur les différences de salaire et le nombre de femmes parmi les cadres dirigeants. Il est déjà mis en cause dans plusieurs affaires en France. L'ambassadeur du Vatican en France, Luigi Ventura, désormais visé par une plainte au Canada pour attouchement sexuel. La victime serait un homme âgé de 32 ans à l'époque. Et puis 1-0 pour l'Allemagne en amicale face aux Françaises. C'était hier soir à Laval. Résultat décevant à 3 mois de la Coupe du Monde féminine de foot qui se déroulera en France. Voilà pour les principaux titres de ce vendredi 1er mars. Et on retrouve tout de suite Eva Rock et Anne-Laure Jumet en direct du marché de Rungis.
Mais oui, merci Aurélien pour cette édition spéciale pour célébrer les 50 ans du marché. Avec Anne-Laure Jumet, nous sommes effectivement en direct depuis le marché d'intérêt national. Une ville dans la ville qui génère une économie, 9,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017 pour un site qui emploie 12 000 personnes. Bonjour Stéphane Layani.
Bonjour Eva.
Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes le président directeur général de ce marché unique. Vous savez, quand on prononce le mot marché dans le langage commun, on s'imagine la petite place d'un village avec des étals très colorés. Mais si vous deviez définir un marché dans votre vocabulaire, c'est quoi?
Pour moi, un marché, c'est des gens qui se rencontrent et qui font des affaires. Et ça, à Rungis, tous les matins, toutes les nuits, on se lève tôt pour vous apporter des produits exceptionnels, des produits qui sont faits par nos producteurs. Et évidemment, tout ça, ça fait marcher. C'est se rencontrer ensemble autour d'un lieu pour faire des affaires.
Alors c'est un marché pour les professionnels, hein, on le disait tout à l'heure, le petit commerce, les restaurateurs. Mais est-ce qu'un particulier peut venir ici faire des bonnes affaires?
Non, c'est impossible. On peut visiter le marché. On a 22 000 visiteurs par an, pas plus. Et ça, c'est... une expérience inoubliable pour les particuliers qui veulent le faire, mais ils ne peuvent pas acheter. C'est un marché B2B, business to business.
Mais si je suis un professionnel avec une carte, je peux quand même venir.
Ah, il faut prendre une carte d'acheteur. Si vous avez un cabis, vous pouvez acheter une carte d'acheteur. L'entrée est pas chère dans ces conditions. Et vous pouvez acheter quelques palettes de cerises, plusieurs tonnes de viande, pas de problème.
Mais on disait que c'était une ville dans une ville, hein, le marché de Rungis. On peut venir boire un café, venir dans un des nombreux restaurants qui
sont
ici.
Ça, c'est l'exception. Ouais. On a 19 restaurants sur le marché. Très différent. Ça va de la belle table, la plus belle table, c'est la Marais, la Loyaux, au routier. On y mange très bien. Il y a une ambiance à tout casser. Et c'est souvent ouvert 24 heures sur 24. Donc, en pleine nuit, quand on a une petite faim sur le coup de 3 heures, il faut aller au veau qui tête.
Voilà. En s'acquittant d'un petit péage, quand même, 20 euros hein, pour venir ici.
Voilà.
Stéphane
Layali. Pour les particuliers.
Stéphane Layali, on vient de quitter Didier et Romain, qui sont grossistes en fruits et légumes. Ils avaient des tablettes, d'immenses tablettes à leurs mains, parce qu'ils nous racontaient comment leur métier avait changé, comment le numérique avait révolutionné leur métier. Est-ce que c'est aussi un défi pour vous, pour l'ensemble du marché, cette révolution numérique ?
Je pense que la digitalisation, c'est la révolution industrielle du commerce dans les 50 ans à venir. C'est très important de penser que le monde est en train de bouger. On a connu la révolution du charbon, puis la révolution de l'électricité, et maintenant, c'est la révolution de l'électronique. Et c'est vraiment, ici, à Rungis, un marché moderne. Il ne faut jamais penser aux grossistes avec le petit crayon derrière l'oreille. C'est des gens qui sont totalement ouverts aux nouvelles technologies. Ils font leurs commandes avec des tablettes, et nous, on va offrir une marketplace qui est un service à nos grossistes pour qu'ils élargissent un petit peu le scope de leur intervention.
Vous dites qu'ils sont avec les tablettes. Tout le monde n'est pas équipé.
Non, est-ce que
ce n'est pas une des problématiques sur cette révolution numérique?
Bien sûr.
Que tous les grossistes passent enfin à la numérisation?
Excellente question. C'est exactement ça. Il faut adapter les gens aux évolutions modernes. Bien sûr, ça n'est pas facile. Bien sûr, ils sont pas toujours très bien informatisés. Bien sûr, tout le monde n'est pas compatible. Bien sûr, leur activité n'est pas toujours adaptée. Pourtant, il faut les former, les ouvrir. Et c'est mon projet, c'est de les faire évoluer doucement vers les nouvelles technologies.
Alors, vous parlez de l'avenir. L'avenir, c'est aussi le bio. Hein. Vous avez ouvert une halle bio ici en 2015. C'est un marché qui explose. Hein. Vous le constatez également ici?
Oui, le bio, ça, c'est une grande tendance. C'est une tendance qui est très forte. Ici, à Rungis, les fruits et légumes bio, eh bien, ça explose. C'est entre 20 et 30% de croissance selon les entreprises. Le pavillon bio marche très bien. Et on est en train d'envisager, avec le président du syndicat des fruits et légumes de Rungis, d'ouvrir une deuxième halle bio, pour vous dire.
Et c'est un marché aussi, hein, Rungis, qui veut s'exporter, veut faire ses petits ailleurs dans le monde, des destinations assez exotiques. Vous allez apporter votre savoir-faire pour créer d'autres marchés de ce type ailleurs?
Oui, on s'est aperçu qu'en 50 ans, on avait créé une infrastructure extrêmement originale, très différente de ce qui existe dans le reste du monde et qui, pour le coup, nous est enviée par le monde entier. Donc, à chaque fois qu'une délégation étrangère vient ici, elle me dit « je veux le même dans mon pays ». Donc, on est aux Philippines, au Vietnam, on est en train de négocier, c'est dur, mais on est en train de négocier pour 3 marchés au Vietnam, au Kazakhstan, au Bénin, peut-être un projet en Hongrie. Donc, c'est très intéressant.
Mais concrètement, quels sont les atouts qui font que vous êtes demandé à l'extérieur et dans ces pays-là?
C'est d'abord un travail d'ingénierie. C'est d'abord un travail où...
En termes d'infrastructure.
D'infrastructure, d'aménagement. Ensuite, il y a le froid. En plus, il y a l'attractivité commerciale, il y a la sécurité sanitaire, la transparence, le fait qu'il y a une vraie traçabilité des produits.
Et vous avez l'expertise
sur ces questions-là. On est le marché le plus sûr du monde, avait dit Margaret Chan, la patronne de l'OMS. Le plus sûr du monde.
À l'occasion de cet anniversaire, Stéphane Layali, vos 50 ans d'existence, il paraît que vous voulez entrer dans le Guinness Book des records. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Moi, j'ai toujours aimé les défis et ça m'amuse de faire la plus grande table du monde. Et donc, C'est difficile. Alors, on envoie beaucoup d'invitations, mais je pense qu'on va battre le record.
C'est-à-dire, c'est un banquet que vous allez créer, c'est ça?
Oui, c'est un banquet républicain. C'est une table qui fera plus de 350 mètres de long, puisque c'est le dernier record en question. Et on a de la chance, parce qu'à Rungis, on a des grands pavillons qui sont longs comme un bras.
Oui, c'est surtout l'espace qu'il faut, là, c'est ça.
Et donc, on va pouvoir installer une table longue, comme les 22 stations Neuilly-Vincennes.
Et ça se passe quand, ça?
Le 17 mars, un dimanche, à midi.
Avec 2000 convives, c'est ce que vous espérez?
J'espère qu'il y en aura plus.
Ah, vous en espérez plus, avec évidemment tous les produits qu'on peut
retrouver. Voilà, alors tout le monde participe, les grossistes participent, on a des partenaires, et ça va être un événement extrêmement festif, très sympa, une sorte de... C'est pas un événement gastronomique, c'est plutôt on partage, on est autour de la table, on a des très bons produits.
La philosophie du marché d'intérêt national. Exactement, le bonheur dans les assiettes. Merci infiniment Stéphane Léani de nous avoir rejoints ce matin chez vous, au milieu des fruits et légumes. Je vous rappelle que vous êtes le président, directeur général du marché d'intérêt national situé à Rungis, dont on fête les 50 ans.
Merci à
vous. Europe 1. Il est 6h27, Eva Roque et Aurélien Fleureau sur Europe 1.
Debout les copains se poursuit sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. Laurent Cabrol nous fera un point sur la météo du jour.
Europe 1, bien dans son époque.
Europe 1, c'est mieux que de la radio.
Ça brille, ça bouge.
Du bonheur.
De la joie.
Écoutez de la bonne musique.
Humeur.
Ne pas se raconter d'histoire.
Et humour.
Ras la frange de faire les chroniques pour commenter du rien.
Vos témoignages.
Rencontrer, avancer.
Se retrouver. Vos questions.
Et surtout, y apporter des réponses.
Europe 1, c'est une offre complète.
Pourquoi les banlieues reviennent-elles précisément dans le grand débat?
Aller vers l'autre, mieux se comprendre.
Se faire du bien.
On est bien sur Europe 1.
Europe 1, 6h27, Aurélien Fleureau.
Vous écoutez Debout les copains, édition spéciale Rungis, et c'est l'heure maintenant de la météo avec vous, Laurent Cabrol.
La plus grande table du monde.
Et ce banquet, il donnait envie. Hein.
Je veux y aller. Le 17 mai, hein, c'est ça.
À Rungis, ouais, tout
c'est,
à fait.
C'est noté.
Oh là, on y va tous ensemble.
Bien, ah ben, tiens, je veux. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Rungis, il y a Toulouse, Marseille, Nice, Avignon, Bordeaux, Angers, autant de secteurs où il y a des marchés d'intérêt national, et j'ai cru savoir que celui de Nantes est en train de déménager tellement il se sent bien. Alors, en ce qui concerne le temps qui fait au-dessus de ces mines, au-dessus de votre maison, chers amis. Sachez que sur la moitié nord, c'est un peu de pluie, allez, quelques averses. Sur l'Île-de-France, sur Champagne-Ardenne, le nord et la Picardie. Il y en a aussi sur l'Alsace, la Franche-Comté, le Rhône. Bon, des averses sans grandes conséquences. Et puis sur les autres régions, celles qui bordent l'Atlantique, par exemple, des éclaircies vont s'imposer, comme près de la Méditerranée. Et sur le centre, l'Auvergne, et la Vallée de la Loire et le Limousin, ce sera pas mal non plus. Bon, c'est une journée de transition avant la pluie de demain. Et puis les températures entre 10 et 21 degrés, elles baissent bien sûr, mais elles baissent lentement.
Parfait, merci Laurent. Dans une minute, il vient d'entrer en studio, le journal de 6h30 de David Doucan.
Europe 1. Question épargne, la Caisse d'épargne vous répond.
Éric Marache, vous êtes conseiller à la Caisse d'épargne. C'est quoi le nouveau parcours épargne personnalisé?
Nous avons un objectif, nouer une relation privilégiée avec nos clients. À l'aide d'un questionnaire précis, nous identifions notamment avec lui son profil d'investisseur en fonction de ses besoins, de ses connaissances financières et de son appétence au risque, mais également les projets à court, moyen ou long terme qu'il peut avoir. Nous lui proposons ensuite des solutions d'investissement au plus près de ses besoins.
Mais vous allez au-delà.
Tout à fait. Si la conjoncture économique bouge ou si le projet d'investissement évolue, nous nous engageons à proposer à nos clients des ajustements pertinents. Et grâce à nos solutions digitales, cet accompagnement renforcé est facilité pour nos clients.
Pour bien choisir ses placements, il faut être bien accompagné. Découvrez le nouveau parcours épargne personnalisé en prenant rendez-vous avec un conseiller Caisse d'épargne. Caisse d'épargne, vous êtes utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital. Europe 1,
5h, 7h, Eva Roque.
Vous écoutez Debout les copains, édition spéciale en direct de Rungis. Il est 6h30 et nous sommes toujours au milieu des fruits et légumes, un marché qui célèbre ses 50 ans d'existence. Après le journal de David Doucan, nous retrouverons Mickaël Darmon et Axel de Tarlé. Mickaël reviendra justement sur l'enjeu du bio et comment le gouvernement peut résoudre le problème de financement des producteurs bio. Quant à Axel, il analysera le poids économique du marché de Rungis. On vous retrouve dans quelques instants. À vous Aurélien et Anissa.
Merci Eva, à tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. Merci.
5h-7h, émission spéciale aujourd'hui pour les 50 ans de Rungis avec Aurélien Fleureau et Varoc.
Et c'est le journal de 6h30 avec vous David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Aurélien, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
50 centimes de plus pour le paquet de cigarettes, un permis cyclo plus sérieux, les entreprises soumises à l'égalité salariale homme-femme. Plusieurs mesures entrent en vigueur ce vendredi. Pour la première fois, Emmanuel Macron a été personnellement confronté à la colère du pays. Lors d'un débat hier soir, une femme a offert un collier au président avec un pendentif gilet jaune. Le chef de l'État a refusé de l'enfiler. L'Union européenne sponsorisée par Coca-Cola, non, ce n'est pas une blague. Un partenariat a été signé entre la marque de soda et la Roumanie qui assure la présidence tournante de l'Union.
Europe 1.
En ce premier jour du mois de mars, beaucoup de choses vont changer. Les cigarettes vont coûter plus cher par exemple, mais ce n'est pas tout. Plusieurs autres mesures entrent en vigueur ce matin. Maud Descamps.
Pour acheter votre paquet de cigarettes ce matin, il faudra débourser entre 50 et 60 centimes de plus que d'habitude. Autre changement ce 1er mars, les conditions d'obtention de l'éco-prêt à taux zéro pour financer vos travaux de rénovation énergétique. Des conditions assouplies, plus besoin de faire plusieurs travaux pour prétendre au prêt. Une très bonne nouvelle selon Florence Clément de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Que pour les particuliers, c'était parfois gênant de devoir réaliser plusieurs actions de rénovation en même temps dans le logement pour obtenir un éco-prêt. Maintenant qu'une seule action va pouvoir être financée par cet éco-prêt à taux zéro, nous pensons que ça va vraiment encourager les gens à aller chercher cet éco-prêt auprès de leur banque.
Du nouveau aussi à partir d'aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Toutes les entreprises de plus de 1000 salariés doivent rendre public aujourd'hui leur index d'égalité salariale qui permet de mesurer les inégalités entre les salariés hommes et femmes. En revanche, aucun changement sur les tarifs de l'électricité puisque le gouvernement les a gelés jusqu'au printemps. Pour le gaz, une baisse est prévue, mais elle n'interviendra que le 1er avril prochain.
Maud Descamps pour Europe 1. Emmanuel Macron voulait créer la surprise en s'invitant à un débat citoyen hier soir à Pessac en Gironde. Et c'est lui qui a été surpris. Une femme se revendiquant des gilets jaunes s'est approchée à quelques centimètres de lui au milieu de la scène. Elle avait un cadeau, un collier avec un pendentif gilet jaune. Comme elle insistait pour que le chef de l'État l'enfile, s'en est suivi un vif échange. Écoutez.
Moi, monsieur Macron, j'ai un petit cadeau pour vous. Parce que depuis le 17 novembre, je suis gilet jaune. Je suis gilet jaune, monsieur Macron. J'ai envie que vous le soyez avec vous. Monsieur Macron, nous sommes toutes des femmes ici. Et je pense que vous devez faire plaisir aux dames. Regardez ce que l'on va faire.
Je suis le président de toutes les Françaises et tous les Français.
Oui.
J'ai le droit de ne pas mettre un collier gilet
Alors,
jaune,
moi, je
de ne
dis,
pas mettre un gilet jaune.
Moi, je dis que si vous voulez réconcilier les Français, acceptez, ne serait-ce que ce soir, avec les Bordelais et les Bordelaises, d'être avec nous deux dans le cœur.
Je veux bien le prendre si vous me faites un cadeau.
Non, mais
parce
je veux
que
vous le portiez quand même.
Mais je ne vais pas. Je ne vais ni porter le gilet jaune, ni porter le. Parce que je ne vais pas dire j'appartiens à un groupe. Et ça n'est
pas une question d'appartenance.
Non, mais
c'est
ça
une
n'est
question
pas
de faire un geste mais pour dire je vais vous entendre, mais je vais vous écouter
mais
surtout.
Je l'ai fait ce geste.
Vous entendre, on vous voit.
Non, il y a une réponse qui a été apportée le 10 décembre.
Non, pas les 10 milliards d'euros, s'il vous plaît.
Non, mais pardon, enfin.
Voilà, c'est pas ça.
Mais si, c'est une vraie réponse.
Échange dont Stéphane Place a été témoin pour Europe 1. Le président a aussi condamné, je cite, le cynisme de l'entreprise Ford qui, je vous le rappelle, a refusé une ultime offre de rachat, condamnant ainsi l'usine de Blanquefort à la fermeture. Ce matin, Emmanuel Macron rencontrera Alain Juppé. Les deux hommes prendront le petit déjeuner à l'hôtel de ville de Bordeaux. Celui qui est encore pour quelques heures le maire de la ville quittera ensuite officiellement la vie politique pour rejoindre le Conseil constitutionnel. C'est la période de la publication des résultats pour les grands groupes. Dans la distribution, Carrefour a de bons chiffres grâce à ses filiales à l'étranger, mais en France, c'est plus compliqué. Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, était l'invité d'Europe 1 hier soir. Il va falloir repenser complètement le concept même de la grande surface.
Le format de l'hypermarché, moi, je ne considère pas qu'il est mort. Je ne veux pas vendre d'hypermarché, je ne veux pas en céder. Mais par contre, il faut le réformer. On voit bien qu'il est en difficulté dans beaucoup de pays, chez tous les acteurs. La réforme, ça veut dire bâtir un hypermarché pour le monde de demain. Ça peut plus être des grandes cathédrales où on trouve tout. Ça doit être plus précis en termes de service, répondre aux attentes des clients sur la qualité alimentaire, les circuits courts, les produits locaux. Bref, construire un modèle d'hypermarché pour le monde de demain. Ils seront moins grands. On annonce 400 000 m² de moins dans le monde. Il y aura moins de références. On s'y perdait au fond. Donc on a annoncé 15% de baisse des assortiments. Il y aura une place du non-alimentaire plus compactée. Par contre, l'alimentaire sera mis en majesté avec plus de produits frais, beaucoup plus de bio, beaucoup plus de circuits courts. plus de restauration aussi. Bref, ce qu'attendent les clients aujourd'hui de leur grand magasin hypermarché.
Alexandre Bompard, le patron de Carrefour au micro Europe 1 d'Emmanuel Duteil, que vous retrouvez chaque soir dans l'interview Echo à 22h20. L'ambiance risque d'être glaciale tout à l'heure à Bercy, dans le bureau de Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie français reçoit son homologue néerlandais pour exiger des éclaircissements sur la prise de participation surprise des Pays-Bas dans Air France KLM.
À suivre dans ce journal, l'Union européenne sponsorisée par Coca-Cola. Coca-Cola, est-ce que ça vous choque? Et pourtant, c'est vrai, on vous explique dans un instant.
Il est 6h37, Aurélien Fleureau.
La suite du journal de David Doucan, vous nous dites que l'Union européenne est sponsorisée par Coca-Cola.
Oui, il s'agit d'un parrainage signé avec la présidence tournante roumaine, mais alors c'est totalement légal, mais certains crient au conflit d'intérêts. Isabelle Horry.
Coca-Cola est très fière de parrainer la première présidence européenne de la Roumanie. Dans le bâtiment où se sont réunis les ministres européens, la marque le clamait sur des panneaux. Il y avait aussi des boissons gratuites et d'énormes poufs rouges frappés de son logo. Un mélange des genres qui fait bondir l'association de défense des consommateurs Foodwatch. Sa directrice générale, Karine Jacquemart, dénonce un conflit d'intérêts.
C'est scandaleux de la part de Coca-Cola d'aller aussi loin. Et c'est scandaleux de la part des responsables politiques qui doivent redonner de la confiance aux citoyens et qui doivent mettre des règles claires de transparence pour éviter les conflits d'intérêts. L'influence des lobbies n'a plus de limites. Et là, c'est au grand jour. Ils ne cherchent même plus à se cacher.
Foodwatch demande la fin de ce partenariat, mais Coca-Cola, comme les autorités roumaines, nous assure qu'il est conforme aux règles, que la marque a répondu à un appel d'offres. À Bruxelles, les institutions européennes sont embarrassées. Coca-Cola, ça n'était pas le choix le plus judicieux, souffle-t-on. Mais rien n'interdit à une entreprise de parrainer une présidence tournante. En réalité, tous les pays le font, mais plus discrètement avec des marques nationales ou des constructeurs automobiles comme Audi ou Renault. Un système qui pose question, mais que personne n'avait jusqu'ici remis en cause.
Isabelle Horry, à Bruxelles, pour Europe 1. Une nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui en Algérie. Des manifestations sont prévues après la grande prière de la mi-journée. Hier, une dizaine de journalistes algériens a été détenus plusieurs heures par la police avant d'être libérés après avoir participé à un rassemblement contre la censure. En Israël, le procureur général a annoncé son intention d'inculper Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui est en pleine campagne électorale, est accusé de corruption, fraude et abus de confiance. Et maintenant, mon cher Aurélien, musique. On aime les réentendre, ces grandes voix du rock et de la chanson française. Le business des intégrales marche plus que jamais. Aujourd'hui, c'est celle de Bachung qui sort à l'occasion du 10e anniversaire de sa disparition. Diane Chenouda.
Les gens m'appellent l'idole des jeunes.
Trois coffrets de Johnny Hallyday sortis de son vivant, 10 000 ventes à chaque fois. C'est le plus gros succès du catalogue Universal, qui sort 5 à 8 intégrales par an. Gainsbourg, Barbara, Aznavour, Brel, bientôt Reggiani et maintenant Bachung. Il y a une demande des fans, mais pas seulement. Georges de Souza, directeur du catalogue Universal.
Évidemment que les fans sont les premiers à réagir, mais ça touche aussi à un autre public qui aime tout simplement les objets comme ils peuvent aimer les beaux livres, les collectionneurs, mais aussi à des personnes qui consomment encore des CD. La moitié de la consommation en France, c'est encore en format physique. C'est aussi un très beau cadeau à offrir.
Président, président de la République.
Un cadeau à 100 euros pour le coffret de Bachung avec tous ses albums, un livret, des photos rares et surtout un gros travail de remixage.
On retravaille tout le son des albums et puis après on essaie de regrouper toutes les raretés. Et puis là, on a la chance d'avoir retrouvé 4 réels inédits.
Quand t'as plus rien à fumer.
200 préventes pour cette intégrale tirée à 3000 exemplaires, ça ne paraît pas beaucoup, mais pour Universal, c'est un bon début.
Il devient les sanglots.
Diane Chenouda du service culture d'Europe 1.
Merci, c'était le journal d'une autre grande voix, David Doucan, évidemment, qu'on retrouve à 8h pour le journal comme d'habitude. Et l'interview politique à 8h15, quel invité?
Oui, le député insoumis de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel.
À tout à l'heure, David, merci. Du côté du ciel, Laurent Cabrol, quelle est la tendance météo pour cette journée?
Eh bien, la tendance, c'est que tout change. Hein. C'était prévu et tout se confirme. Alors, le changement arrive lentement, bien sûr. On ne peut pas tout modifier comme ça en claquant dans les doigts. De sorte que aujourd'hui, ce sera une journée de transition, comme je l'indiquais. C'est-à-dire que nous aurons des averses sur les régions de la moitié nord. et nous aurons des éclaircies sur les régions du sud. Et petit à petit, à la fois demain et après-demain, le mauvais temps va s'installer. Il va s'installer de manière beaucoup plus violente en cours de semaine prochaine, avec vraiment des périodes de pluie assez nombreuses et assez violentes, de sorte que vraiment la semaine prochaine s'annonce comme une semaine très désagréable. Je voudrais vous donner pour terminer les températures actuelles pour ceux qui ouvrent un œil. 6 à Tarbes, 7 à Rennes, 8 à Tours, 9 à Caen et en région parisienne, 9 à Lyon, 10 à Paris-Ville, à Clermont-Ferrand, 11 à Bordeaux, 12 à Montélimar et 16 degrés du côté de Toulon. Voilà.
Merci mon cher Laurent. Anissa, depuis 5 heures ce matin, vous êtes en lien avec les auditeurs sur Twitter et sur le hashtag Europe 1. Que vous raconte-t-il ce matin?
Alors, c'est une journée du compliment, c'est la journée mondiale du compliment. Laurent, bougez pas, restez avec nous.
Il y en a
parce
pour vous.
Que Yves nous a écrit, vous nous avez parlé de votre jardin, de vos fruits, de vos légumes. Ouais. Eh bien, Yves nous dit, pour moi, Laurent Cabrol, c'est le pote âgé de tous les auditeurs d'Europe 1.
Waouh! Ouais.
Jeu de mots et compliments, tout
j'aime,
ça dans un
ça
seul
plaît,
tweet.
Voilà.
J'aime.
Ça vous plaît?
C'est le plus beau compliment, parce que le potager, c'est l'endroit où je me sens mieux.
Et voilà, vous êtes notre potager. On vous embrasse, Laurent. Il y a Sébastien qui nous dit « Eva, Anissa et Céline sont les rayons de soleil à chaque fois que je les écoute. » Céline, elle revient lundi, on l'embrasse. Yanni nous dit « Une dame qui nous a aidés en 2014, elle travaillait dans les estudines de l'église de Pantin. Madame, on ne vous oubliera jamais, parce que dans les compliments, il y a aussi les petites attentions et les belles actions du quotidien. »
Parfait, merci Anissa.
De rien. Il est 6h42, Aurélien Fleurot.
Vous écoutez Debout les copains, édition spéciale depuis 5h ce matin en direct du marché de Rungis. À suivre les analyses de Mickaël Darmon et Axel De Tarlé qui évoqueront évidemment le marché d'intérêt national avec Eva Roch en direct de Rungis.
Europe 1.
Il est 6h44 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité de ce 1er mars, Aurélien Fleurot.
50 centimes de plus pour le paquet de cigarettes, un permis cyclo plus sérieux, les entreprises soumises à l'égalité salariale hommes-femmes, plusieurs mesures entrent en vigueur ce vendredi 1er mars. Vif échange hier soir entre le président de la République et une femme se revendiquant des gilets jaunes lors d'un débat surprise à Pessac en Gironde. Elle voulait qu'il enfile un collier avec un pendentif gilet jaune. Le chef de l'État a refusé. L'ambiance risque d'être glaciale tout à l'heure à Bercy. Dans le bureau de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français reçoit son homologue néerlandais pour exiger des éclaircissements sur la prise de participation surprise des Pays-Bas dans le groupe Air France KLM. En Israël, le procureur général a annoncé son intention d'inculper Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien, qui est en campagne électorale, est accusé de corruption, fraude et abus de confiance.
Europe 1, 5h-7h, Aurélien Fleurot sur Europe 1.
Debout les copains, spécial Rungis, avec vous Eva Roch.
Et oui, exactement Aurélien, vous entendez le bruit autour de moi depuis 5h ce matin avec Anne-Laure Jumet. Nous sommes au cœur de ce marché d'intérêt national pour célébrer les 50 ans d'existence puisqu'ils ont déménagé du cœur de Paris pour venir donc à 7 km de la capitale, au sud de la capitale. C'était en 1969, le 3 mars exactement. C'est une vraie fourmilière autour de nous. Et en 2015, une nouvelle halle consacrée aux productions bio a ouvert ses portes ici même. Mickaël Darmon, les agriculteurs français sont en pleine mutation sur ce point de vue et ils ont des difficultés pour toucher les aides. Mais d'où vient ce blocage selon vous?
Et oui, c'est vrai qu'il y a une inquiétude du côté des producteurs bio. Alors on l'admet sans barguigner autour du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, il y a eu des retards de paiement pour les aides 2016-2017. Il faut savoir que pour faire valider un dossier d'exploitation en label bio, ben je vais m'inspirer à ce moment-là, puisque c'est la journée du compliment, modestement, du spécialiste des quiz, Axel De Tarlé. Vous savez combien de critères faut-il pour obtenir le label d'exploitation bio?
Une ribambelle.
9500.
Combien, Eva?
9500 références.
Bravo, c'est tout, effectivement. 9500 critères, vous vous rendez compte? La simplification administrative a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, sur les 4 milliards d'aides aux producteurs bio, eh bien, il en manque 60 millions à verser. Donc, voilà une information qui va faire plaisir aux producteurs. À partir de mai, c'est réglé. Les aides de 2018 seront versées, elles, en 2019, comme prévu.
Mickaël, donc on comprend, c'est une vraie transition écologique en douceur qui se joue en fait en ce moment même.
Oui, parce qu'il faut le souligner aussi quand ça va bien. Pour accompagner ce qu'on appelle la transition d'assolement, c'est-à-dire avoir des terres bio, eh bien il faut 3 ans pour un agriculteur. L'objectif en France est de passer de 6,5% des sols en bio à 15% en 2022. Et l'État met 1 milliard d'aides pour accompagner les transitions, de manière à mettre les agriculteurs en phase avec les demandes de la société, d'aliments plus sains et de circuits courts. Mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire. Par exemple, sur le domaine du lait, Les producteurs, eux, ont un problème qui reste entier, si je puis dire, surtout lorsqu'ils souhaitent aussi faire du circuit court. Une association de producteurs de lait indépendants se bat contre la diminution drastique du nombre d'exploitations et les regroupements forcés en immenses exploitations intensives, avec toutes les conséquences pour l'environnement et le revenu des producteurs. Selon les calculs, effectivement, il faudrait payer un producteur 45 centimes du litre afin de garantir et la qualité et le revenu décent. On en est encore très loin. On le voit avec le bio, si les politiques vertueuses existent, elles sont encore insuffisantes. La transition écologique, c'est aussi le combat quotidien de beaucoup de producteurs, mais ils se heurtent encore à beaucoup de vieilles résistances.
Merci Michaël Darmon. D'ailleurs dimanche, vous recevrez dans le cadre du grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture. J'imagine évidemment que vous reviendrez sur ces problématiques. Axel de Tarlet, vous êtes quand même le mieux placé pour nous expliquer le poids économique de Rungis. Qu'est-ce que ça pèse, ce marché, dans l'économie ?
Ah bah écoutez, Rungis, c'est le plus gros marché de produits frais d'Europe et même, certains disent, du monde. Donc vous y êtes, hein, c'est 230... Vous savez que c'est plus grand, Rungis, que Monaco. C'est 234 hectares. Et donc, il transite chaque jour 9500 tonnes de marchandises. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de camions 30 tonnes là, qui arrivent et qui repartent.
Ah, je peux vous dire que c'est un grand balai. Hein. Voilà. Depuis ce matin, 4 heures, on assiste à ce balai immense de camions.
Alors, chiffre d'affaires, 9 milliards. Alors, dans l'ordre, par type de marchandises, 1... Le plus gros volume, c'est fruits et légumes. Le pavillon fruit-leg, comme on dit. Vous voyez, je veux faire le mec de Rungis. Ensuite, il y a la viande, le pavillon de la volaille, je crois où vous êtes, Eva.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Alors, le pavillon de la viande qui est à égalité avec le pavillon du fromage, les produits laitiers. Ensuite, on a le pavillon de la marée. Il fait 900 millions. Alors, ça, c'est tout ce qui est poisson, fruits de mer, etc. Et à la fin, les fleurs. Alors, les fleurs, on m'a dit, ça marche moins bien parce qu'ils ont une énorme concurrence, évidemment, des Pays-Bas. Voilà. Oui. Alors, les défis. Les défis, quels sont-ils ? Eh bien d'abord, il y a le Brexit, c'est idiot, mais vous savez que 40% des Britanniques, enfin, ils importent 40% de leurs fruits et légumes de France. Et à votre avis, où se fournissent-ils les Anglais pour acheter ?
À Rungis,
voilà. Donc,
on en a parlé il y a quelques instants, tout à fait. Hein.
Voilà. Et puis alors, l'autre défi, bah, justement, Michael en parlait à l'instant, c'est le bio. Donc, vous l'avez dit, il y a un pavillon bio depuis 2015. Et puis, d'une façon générale, il y a maintenant toute une demande de monter en gamme, de produits plus sophistiqués. Par exemple, au pavillon de la Marée, on achète de moins en moins de pavés. On achète maintenant des poissons entiers, vous voyez, ça fait plus chic. Et c'est une demande de la clientèle. Et c'est cette montée en gamme, c'est parfait pour Rungis. Parce que si vous voulez, Rungis, c'est quand même en matière de fraîcheur, de traçabilité, de conditions sanitaires, c'est quand même ce qu'on fait de mieux. C'est bien mieux que les marchés d'antan. Ce qui fait que ce modèle de Rungis s'exporte à l'étranger. Par exemple, les Chinois sont venus en France, ils ont regardé et ils ont reconstruit pavillon par pavillon le même marché de Rungis, mais à Shanghai. D'ailleurs, ils sont un peu trompés parce qu'ils ont pris des habitudes françaises, comme par exemple des gros crochets pour des grosses carcasses, sauf qu'en Chine, les carcasses sont plus petites, donc ils avaient des crochets trop gros. Peu importe, ce modèle de Rungis, c'est maintenant copié. Les Anglais, les Hongrois, le Bénin, tout le monde vient voir comment on fait et veut les mêmes marchés chez eux. Donc voilà, ça sera une prochaine idée de délocalisation, parce qu'il y a les Anglais aussi à Londres qui pourraient faire un Rungis. On pourrait aller voir à Budapest ou à Londres ou à Moscou. Hein, comment sont les French Rungis?
Oui, on était avec Stéphane Ayani, le président du marché d'intérêt national, qui nous racontait qu'ils allaient bientôt s'installer notamment au Bénin. C'est
voilà,
l'expertise
Bénin,
française.
Les Philippines, le Vietnam.
Et aux Philippines, exactement, et au Vietnam. Merci infiniment, Axel et Michael. On vous retrouve bien évidemment lundi matin. Je suis toujours avec Anne-Laure Jumet. On est dans un petit café qui jouxte toujours la halle où se trouvent tous les producteurs de volailles. Anne-Laure, il y a quelqu'un qui est à côté de vous.
Oui, absolument.
Un personnage.
Ce monsieur, c'est Antoine D'Agostino. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je peux vous demander votre âge, monsieur ?
Pardon ?
Votre âge ?
83.
83 ans, donc vous avez créé la cave de Rungis ici. Aujourd'hui, c'est votre fils hein, qui a repris cette affaire, hein, qui vend donc du vin, comme son nom l'indique. Vous avez travaillé pendant 20 ans au Halles, hein, à Paris, au rayon fruits et légumes. Donc vous avez connu en fait ce déménagement dont on parle depuis ce matin, en 1969, quand le marché a déménagé des Halles à Rungis. Ça s'est passé comment ?
Bah, ça s'est passé, c'était... vraiment un convoi militaire, puisque c'était l'armée qui faisait la circulation. Hein. Donc, et puis à l'époque, nous avions qu'un petit bout d'autoroute hein, qui allait jusqu'à Orly. Quoi. Et puis il n'y avait pas le périphérique qui n'était pas terminé.
Ça a pris combien de temps ?
Ça prenait de la place. Oh, 48 heures.
Hein. Oui.
48 heures.
Avec des changements d'habitude, des changements de normes, parce que c'était plus aux normes, en fait, Léa.
Ici, à Rungis, n'en parlons pas, puisque on était dans le modernisme, alors que là-bas, nous étions encore au Moyen-Âge. Et puis, la facilité, nous étions sur 16 hectares, nous sommes arrivés sur 234 hectares, c'est aussi grand que Monaco, donc pour faire le marché, fallait des petits, il y avait les vélos, le Vélib a été inventé à Rungis.
Dites-moi, vous avez 83 ans, vous pourriez prendre votre retraite, qu'est-ce qui vous rattache à ce lieu? Qu'est-ce qui vous rattache à Rungis?
Comme c'est mon fils, notre fils, puisqu'il a ma femme aussi, qui a repris l'entreprise, quoi. Donc, et moi, ça, comme je ne dors pas, eh bien, le matin, je viens voir mon fils. Et puis je vois les amis en même temps.
Et vous êtes nombreux dans ce cas. Vous êtes plusieurs, en tout cas, à avoir passé l'âge de la retraite et à revenir tous les jours, rester dans cette ambiance, cette convivialité.
Il y en a quelques-uns. Enfin, disons, le plus assidu, c'est moi. Mais sinon, il y en a qui viennent un peu plus tard.
Oui, parce que peut-être qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est un lieu évidemment professionnel, on travaille, mais il y a toute une vie, on est au café là, vous vous connaissez tous. J'imagine que vous avez construit une seconde famille aussi.
C'est un petit village avec beaucoup de monde.
C'est ça.
Et puis les gens se parlent, les gens se disent bonjour, et puis s'engueulent aussi, mais on boit un coup quand même. Et puis, mais c'est jamais de méchanceté, vous savez.
Mais dites-moi, il y a beaucoup d'hommes et très peu de femmes.
C'est-à-dire que la nuit, c'est pas...
Vous pensez que c'est ça, surtout, ouais.
Les femmes, il y a les enfants. Justement, il est en train de... Il y a le projet de crèche qui est en train de se faire. Et puis, comme il se fait beaucoup de choses, beaucoup de choses se mettent aux normes sanitaires et c'est permanent, ça. Il y a des changements permanents.
Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle que ça fait combien d'années que vous avez travaillé ici?
Ça fait 50 ans maintenant.
50 ans.
Enfin, 50 ans là, début mars.
Donc l'anniversaire. Antoine D'Agostino, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct de Rungis au Café Le Saint-Hubert.
Merci Aurélien et Anissa, vous le voyez, ça continue à vivre ici.
C'est magnifique.
Il y a beaucoup de bruit peut-être.
Magnifique,
mais,
magnifique, bravo.
On est avec des vrais personnages. Évidemment, dans quelques instants, on va passer le relais à Nikos Aliagas. Vous m'entendez, Nikos? Oui,
évidemment,
vous êtes avec nous.
Il y a un peu de feta, ils ont tous les produits de la Méditerranée là-bas.
On nous a beaucoup parlé de la Grèce. Je vous raconterai ça
magnifique.
Quand on sera tous les deux.
J'allais souvent avec mon papa à Rungis.
C'est ce qu'on nous a dit.
Je connais bien, c'est une ville magnifique. Vous avez beaucoup de chance ce matin de partager Rungis avec nos auditeurs. Et merci pour la qualité de votre travail.
On vous retrouve dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il est 6h56. Eva Rock depuis Rungis ce matin.
Et oui, Debout les copains en direct de Rungis s'achève. C'était une édition spéciale pour célébrer les 50 ans d'existence de ce lieu.
Bravo.
Depuis ce matin, 5h, voilà, nous étions au cœur de ce site immense, un lieu d'échange économique, mais pas seulement, j'espère que vous l'avez compris. Il faut voir la vie qui anime et rythme ce lieu. Ça grouille, comme on dit, ça parle fort, ça négocie. On espère vous avoir fait vivre cette ambiance si particulière. Merci beaucoup, Anne-Laure Jumet.
C'était un plaisir de vous accompagner
ce matin. Merci infiniment. On tenait aussi à remercier toutes les personnes qui nous ont accueillis ce matin pour cette édition spéciale. Et puis merci aussi à Laurent Pellet qui a assuré la technique de ces 2 heures passionnantes réalisées.
Ils
sont très bons. Depuis Rungis, pour les 50 ans, voilà, les 50 ans, ça sera exactement dans la nuit de dimanche à lundi, le déménagement. Mais on voulait vraiment marquer le coup et revenir sur ce lieu magique aux portes de Paris. Je vous passe le relais, Nikos Aliagas. Passez une très bonne matinée à l'écoute d'Europe 1.
Vous l'avez fait magistralement. Et pour clore la tradition, il faut manger du gras double avec du pied de veau là.
Bien sûr.
C'est l'heure, bonne heure. Voilà, pour le petit déjeuner.
Avec le petit verre de blanc.
Exactement, Anne-Laure. Je vous embrasse. Bonne journée. Bravo. Merci.